Alors, au cours des deux derniers exposés, on a pu commencer à étudier quelle était la fonction donc des anciens dans l'Église. Et pour rappel, on appelle anciens les gens qui sont responsables de l'Église locale. Le premier exposé, si vous vous en rappelez, nous a permis de dessiner les contours de cette fonction, notamment en rapport avec la structure de l'Église. La structure générale de l'Église, telle qu'on la voit dans la Bible, mais aussi la structure de l'Église telle qu'on la comprend en tant qu'Église réformée évangélique. Et si vous n'étiez pas là, vous pouvez toujours consulter l'enregistrement sur Internet. Le deuxième exposé, donc la dernière fois, nous a permis de voir l'importance que devait occuper la doctrine biblique dans l'exercice de la fonction d'ancien. Et pourquoi cette importance, vous vous souvenez? Parce que Jésus compte diriger l'Église par le moyen de sa parole. D'ailleurs, en parlant de sa parole, je ferais mieux de m'équiper là. Sa parole, la Bible, bien sûr. C'est pourquoi les anciens, qui sont comme, rappelez-vous cette image, qui sont comme les lieutenants de Jésus-Christ dans l'Église locale, eh bien les anciens doivent être, pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul, ils doivent être aptes à l'enseignement, c'est-à-dire qu'ils doivent être capables de formuler et d'expliquer et de défendre les doctrines essentielles de la foi chrétienne. Les anciens sont donc responsables, je résume, hein, responsables de l'enseignement dans le cadre de l'Église. Et la substance de cet enseignement est censée être la Bible, et rien d'autre que la Bible, parole de Dieu. Elle est inspirée de Dieu, elle est infaillible, elle fait autorité en matière de foi et de vie, c'est-à-dire en matière de croyance et de conduite. Voilà ce qu'on attend des anciens au niveau de la doctrine. Donc notre nourriture en tant que chrétien, c'est quoi? C'est la Bible. Notre nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Nous attendons des anciens qu'ils nous nourrissent de la parole de Dieu ou qu'ils organisent en tout cas l'enseignement de la Bible pour qu'elle nous serve aux chrétiens de nourriture. Et donc vous voyez qu'en dispensant les enseignements de la Bible, eh bien les anciens agissent comme des bergers qui nourrissent le troupeau. Et on va rester un petit moment sur cette image de berger, parce qu'un berger, ça ne fait pas que nourrir son troupeau. Un berger, ça doit aussi prendre soin de son troupeau, n'est-ce pas? De diverses autres manières. Alors vous connaissez bien entendu la parabole de la brebis perdue et retrouvée. On trouve cette parabole dans l'évangile de Luc, chapitre 15, versets 3 à 7. Et bien sûr, le but de cette parabole, lorsque Jésus la raconte, ce n'est pas de nous décrire, eh bien, le travail des anciens dans l'Église. Mais quand même, cette parabole illustre bien l'attitude pastorale du Seigneur Jésus lui-même, une attitude que les anciens sont appelés à imiter. Le berger, donc, se préoccupe du bien-être de ses brebis, et s'il en perd une sur 100 dans la parabole, eh bien, il va laisser les 99 qui n'ont pas besoin d'être secourus et aller porter secours à la brebis qui s'est perdu. La morale de l'histoire, eh bien, Jésus nous la donne. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc, vous voyez, les anciens ne sont pas seulement appelés à asséner des coups de Bible sur la tête des membres de l'Église, même si c'est un aspect important de leur ministère, comme s'ils étaient simplement de cruels dogmaticiens. Non, les anciens sont des bergers qui prennent soin de leur troupeau. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois ajouter que par bien des aspects, cette dimension du rôle des anciens n'est généralement pas naturelle pour les hommes. C'est une dimension de leur ministère qui ne vient pas naturellement, en général, aux hommes. Les hommes ont plutôt tendance à être dominateurs, têtus et insensibles. C'est pas vrai, mesdames? Enfin, surtout si vous êtes marié, vous pourrez peut-être en témoigner. C'est pour cette raison que l'apôtre Pierre exhorte les anciens à ne pas tyranniser les gens qui leur sont confiés. 1 Pierre 5, verset 3. Bien entendu, cette disposition que nous avons en tant qu'hommes à dominer, nous l'héritons de la chute, hein, depuis Genèse, chapitre 3. Nous voyons que c'est une tendance chez l'homme. Je dois aussi ajouter que cet exposé sur les anciens et l'accompagnement de l'Église, c'est un exposé qui est difficile pour moi parce qu'il révèle beaucoup de mes propres faiblesses en tant qu'ancien et pasteur. Mais l'idéal que Dieu nous présente dans la Bible ne doit pas ne doit pas nous décourager si nous sommes déjà un ancien ou si nous sommes appelés à être un ancien. L'idéal que Dieu nous présente dans la Bible doit plutôt nous inciter à nous repentir, hein, en permanence et à chercher dans la foi et l'humilité le secours de Dieu pour l'accomplissement des tâches qu'il nous confie, des tâches parfois difficiles, et notamment quand on est ancien ou pasteur, la tâche particulièrement difficile qu'il nous confie, et pourtant qui est tellement importante pour la bonne marche de l'Église. Alors, personnellement, je vous remercie donc pour vos prières pour moi, qui suis le pasteur de cette Église actuellement, et pour votre patience à mon égard, comme à l'égard de nos autres anciens lorsque nous en aurons. Les anciens doivent être des hommes qualifiés, vous l'avez déjà compris, hein, des hommes qualifiés pour pouvoir exercer cette fonction, mais en même temps, ils sont, les anciens, comme tous les autres chrétiens, ils sont des hommes en chantier. Ce sont des hommes en chantier. Dieu continue d'œuvrer dans leur vie, le chantier n'est pas terminé. Et ils continuent d'œuvrer dans leur vie par le Saint-Esprit pour les façonner à l'image de Jésus-Christ et faire d'eux des meilleurs hommes, de meilleurs pères, de meilleurs maris et tout simplement de meilleurs anciens et de meilleurs chrétiens. Alors premièrement, vous avez le plan sous les yeux. Les anciens sont des hommes qui aiment. Ce sont des hommes qui aiment. Évidemment, le berger prend soin de son troupeau car il aime son troupeau. C'est pas juste parce qu'il aime le méchoui de temps en temps qu'il prend soin de ses brebis. Il aime vraiment son troupeau. Cela peut vous sembler évident, mais trop souvent les églises ont pour anciens des gens qui sont associables ou, et c'est peut-être pire, des gens qui sont amers. Les anciens ne sont pas censés être des hommes qui n'aiment pas être avec les gens. Ils ne sont pas censés être de vieux cyniques qui ont été brûlés dans leurs relations avec les gens. Et beaucoup de pasteurs sont comme ça. Et je confesse que je les comprends. Je les comprends. Le travail d'un ancien ou d'un pasteur est difficile au niveau relationnel. Très difficile au niveau relationnel. Les anciens sont exposés à la médisance, aux accusations injustes, aux trahisons et plus généralement à l'ingratitude. Les anciens peuvent donc être des gens complexés au niveau relationnel. Et c'est souvent le cas, parce qu'au niveau relationnel, c'est difficile. Et sans sous-estimer cette difficulté, qui est bien réelle et bien compréhensible, je peux en témoigner personnellement, il faut pourtant chez l'ancien que l'amour des gens couvre cette multitude de péchés, pour reprendre une expression du Nouveau Testament. Il faut que l'amour des gens couvre cette multitude de péchés. D'après Paul, vous voyez, les anciens doivent être sociables. C'est un terme qu'il emploie. Hospitaliers, conciliants, pacifiques. Ni arrogants, ni coléreux, mais maîtres d'eux-mêmes. Voilà comment Paul en parle dans la première lettre à Timothée et aussi dans sa lettre à Tite. Bref, l'ancien doit aimer les gens et quand on aime quelqu'un, on est disposé à passer du temps avec cette personne. On accorde de l'importance au temps passé avec cette personne, n'est-ce pas? Quand on aime, c'est ce qui se passe. De même, les anciens doivent être disposés à passer du temps avec les gens. Donc un ancien, ce n'est pas quelqu'un, même si parfois, de par notre personnalité propre, on a envie de le faire, ce ne sont pas des gens qui vont rester enfermés dans leur bureau du lundi au samedi, et puis qui vont se montrer juste le dimanche matin, entre 10h et midi, d'accord? Personnellement, je suis quelqu'un d'introverti. Et donc, ce n'est pas dans ma nature d'avoir envie de passer du temps avec les gens. Si vous êtes aussi introverti, vous pouvez probablement vous identifier avec moi à ce niveau-là. Pourtant, je peux vous assurer que j'aime l'Église. J'aime l'Église de Jésus-Christ. J'aime les gens qui la composent, cette Église. Et par conséquent, cet amour me pousse, me contraint même, presque, et pas à contre-cœur, me pousse de bon cœur à faire des choses qui sont contraires à ma nature. Parce que l'amour des gens est plus fort et couvre cette multitude de péchés, comme je le disais. Donc, l'ancien passe du temps avec les gens, mais il ne passe pas du temps avec les gens pour se la raconter. Il passe du temps avec les gens et par amour pour eux, il est sensible à leurs besoins. Quand on aime quelqu'un, n'est-on pas constamment sur le qui-vive pour savoir si cette personne va bien? Même quand on n'est pas physiquement, en présence de la personne. Quand on aime, on se pose cette question en permanence. Ah, j'espère qu'elle va bien, ou j'espère qu'il va bien, j'espère que tout va bien de son côté, n'est-ce pas? N'est-on pas préoccupé par le bien-être de la personne aimée? Imaginez que vous et votre fiancé, et ou et eux, avez prévu d'aller au cinéma un jour. Et le jour venu, votre fiancé vous appelle et vous annonce qu'il ou elle est malade. Et que vous ne pourrez pas aller au cinéma. Qu'est-ce que vous allez lui répondre ? Mince alors, ça tombe mal parce qu'après aujourd'hui, le film ne passera plus en salle. Ou bien est-ce que vous allez lui répondre ? Mince alors, je suis désolé, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour t'aider ? Il y a... Enfin, vous voyez que c'est bien entendu la deuxième réponse qui est préférable, hein, si vous aimez cette personne. Il y a des anciens qui voient les problèmes des gens dans l'Église comme des handicaps pour l'Église. Mince alors, ça tombe mal. Le divorce de ce couple va nous enlever une monitrice d'école du dimanche. Non, l'ancien doit être sensible aux besoins des gens, par amour pour eux, et parce qu'il est préoccupé de leur bien-être, hein, parce qu'il les aime, pas parce qu'il aime l'institution qu'est son Église, pas parce qu'il aime sa carrière en tant que pasteur, pas parce qu'il aime les programmes de l'Église, mais parce qu'il aime les gens. Vous voyez ? Ce qui m'amène à dire, petit c, que l'ancien, parce qu'il aime les gens, cherche l'intérêt des gens. Alors évidemment, l'intérêt des gens, ce n'est pas forcément ce que les gens pensent être leur intérêt, eux-mêmes. Rappelez-vous, les anciens sont des hommes de la Bible, hein ? Les hommes de la Bible chargés de dispenser la parole de Dieu à l'Église. Parfois, les gens pensent savoir ce qui est dans leur propre intérêt. Mais ce qu'ils pensent être dans leur propre intérêt est contraire à la Bible. Les anciens doivent, quant à eux, chercher le véritable intérêt des gens. Et cet intérêt est défini par Dieu dans sa parole. Cet intérêt n'est pas défini par... la psychologie dans le monde séculier ou par les sciences humaines ou par d'autres apports qui, par ailleurs, pourraient être utiles. Mais l'intérêt véritable des gens est d'abord défini par Dieu dans sa parole. En même temps, vous savez, les anciens sont parfois enclins à avoir un avis différent sur ce qui constitue l'intérêt des gens, mais cet avis aux anciens n'est parfois pas plus conforme à la Bible que l'avis que ces gens se faisaient eux-mêmes. Par exemple, un couple pense qu'il est dans leur intérêt de divorcer parce qu'ils ne se supportent plus. Un couple dans l'église. On va divorcer, c'est dans notre intérêt parce qu'on ne se supporte plus, on sera bien plus heureux si on ne vit plus ensemble. Ok, c'est contraire à la Bible. Les anciens interviennent et ils usent de leur autorité pour ordonner à ce couple de consulter un exorciste chrétien pour les délivrer du démon du divorce. C'est pas plus conforme à la Bible. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce serait même un abus d'autorité de la part des anciens de faire cela. Les anciens aiment donc les gens, passent du temps avec les gens, sont sensibles aux besoins des gens et cherchent le véritable intérêt des gens en prenant garde de ne pas abuser de leur position d'autorité. Mais comme le dit Paul, en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. D'accord ? Éphésiens 4, verset 15. Donc, les anciens sont des hommes qui aiment. Ce sont aussi des hommes qui prient. Suzanne, tu veux une feuille ou... Pardon, je vois que t'en as pas, c'est pour ça. Ce sont aussi des hommes qui prient. Encore une fois, vous pourriez me dire, c'est évident, les responsables de l'église locale, bien sûr, qu'ils prient comme tout chrétien. Et vous n'êtes pas en ce moment même en train d'apprendre grand-chose et vous dites peut-être que vous aurez mieux fait de rester chez vous jusqu'à un peu plus tard, l'heure du culte. C'est peut-être évident à dire que les anciens sont des hommes qui prient, mais ce n'est pas forcément évident à faire, comme je peux personnellement en témoigner. Voici pourtant ce que dit Paul, et c'est une parole qui s'applique à tous les chrétiens. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Les anciens, vous voyez, doivent ouvrir la marche dans le domaine de la prière, dans l'Église. Je vous rappelle aussi ce que dit Paul dans un autre passage. « Je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. » Dans ce contexte, c'est 1 Timothée 2, verset 8, dans ce contexte, Paul parle des hommes, non pas au sens des êtres humains en général, les gens, il parle des hommes par opposition aux femmes. Il utilise le terme précis pour les hommes par opposition aux femmes, les gens de sexe masculin, d'accord ? Ce que Paul ne veut pas dire, c'est que les femmes ne doivent pas prier. Non, Paul n'est pas en train de dire ça, que les femmes ne doivent pas prier, que c'est que les hommes qui doivent prier, et que c'est que les hommes qui peuvent prier. Non, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Ce qu'il est en train de dire, c'est que les hommes doivent montrer l'exemple, ouvrir la marche, être en première ligne dans ce domaine de la vie de l'Église, qu'est la prière. À plus forte raison, les hommes qui sont responsables de l'Église doivent-ils montrer l'exemple et ouvrir la marche dans ce domaine. Voici ce que dit l'apôtre Jacques, la prière agissante du juste a une grande efficacité. Est-ce que nous croyons vraiment à ces paroles de l'Écriture et aux promesses, hein ? Par le moyen de nos prières, vous voyez, Dieu agit de façon efficace dans notre vie personnelle, dans la vie de notre famille, dans notre Église et dans le monde. L'ancien doit donc avoir une vie de prière épanouie, non seulement à titre personnel, mais il doit aussi conduire sa famille, sa femme, ses enfants dans la prière. Il doit ouvrir la marche dans ce domaine. Bien entendu, les anciens prient ensemble également en tant que conseil d'anciens. Ça fait partie de leur ministère. Ils se consacrent à la prière et à l'enseignement, je pense que c'est Pierre qui dit ça dans Actes chapitre 6, l'apôtre Pierre. Lorsque nous aurons un conseil d'anciens dans notre église, nous passerons du temps en tant qu'anciens à prier les uns pour les autres et à prier pour les besoins de notre église, à prier pour les besoins des membres de notre église. C'est un aspect primordial de la fonction des anciens, de leur ministère dans le cadre de l'église locale. Bien sûr, les anciens prient aussi avec le reste de l'église dans le cadre des entretiens pastoraux, et on va revenir à ce sujet des entretiens pastoraux dans un petit moment, mais aussi bien sûr dans le cadre du culte et des réunions de prière. Les anciens doivent accorder beaucoup de valeur à ces occasions-là de prier avec l'Église et pour l'Église. La prière sert notamment à montrer au reste de l'Église que le chef de l'Église, ce n'est pas les anciens en fin de compte. Le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ. L'Église ne poursuit pas sa mission en comptant sur ses propres forces ou sur les aptitudes de telle ou telle personne qui sont appelées à conduire l'Église. L'Église poursuit sa mission en s'alignant sur la volonté souveraine de Dieu et en comptant sur sa puissance. La prière sert à manifester concrètement cette réalité et le fait que nous croyons à cette réalité. Alors dans le Nouveau Testament, il y a une situation particulière où les anciens sont appelés à prier spécifiquement pour quelqu'un, et cette situation, c'est la situation des malades. Voici ce que dit Jacques, chapitre 5, versets 14 et 15. « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que ceux-ci prient pour lui, en l'oignant d'huile, au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Alors, je ne vais pas rentrer dans l'exégèse de ces deux versets, qui est un peu débattu. Mais je vais simplement vous dire que la Bible n'enseigne pas que les malades sont automatiquement guéris s'ils prient avec suffisamment de foi, ou si quelqu'un avec suffisamment de foi prie pour eux. Non, la Bible n'enseigne pas cela. Je pense que dans ce verset, l'apôtre est en train de faire référence à deux idées distinctes qu'il est en train de mêler ensemble dans ces deux versets. D'une part, la question de la maladie physique et par conséquent de la guérison physique, et d'autre part, la question de la maladie spirituelle, c'est-à-dire le péché, et la guérison spirituelle, c'est-à-dire le pardon des péchés et le salut. Sachez simplement que dans notre Église, pour information, par obéissance à cette instruction apostolique que nous ne considérons pas comme étant un sacrement, eh bien nous pratiquons ce qui s'appelle l'onction d'huile. Hein, ce n'est pas un sacrement, d'accord ? Ce n'est pas quelque chose que nous faisons par superstition ou parce que nous croyons que ça va avoir un effet miraculeux et magique sur les malades. Nous le faisons simplement dans l'obéissance de la foi à l'instruction de l'apôtre dans ce passage. Autrement dit, si vous êtes malade, ce texte vous encourage à demander la prière des anciens. Si vous le faites, les anciens vont prendre un petit moment avec vous et vont prier pour vous. Si vous le souhaitez, les anciens vont aussi appliquer un peu d'huile sur votre front au nom du Seigneur. Et comme je l'ai dit, on ne le fait pas parce qu'on croit que c'est un sacrement, ni parce que c'est un tour de magie qui va automatiquement guérir le malade pour qui on prie. Hein. Nous le ferons par simple obéissance à ce texte biblique, sans forcément comprendre le pourquoi de l'affaire. Nous le ferons comme l'expression de notre foi en Dieu et du fait que nous croyons qu'il a la capacité de guérir instantanément et miraculeusement n'importe quel malade si Dieu le souhaite. Donc nous le ferons avec sérieux et avec foi. Alors, les anciens sont des hommes qui aiment, premièrement. Ce sont des hommes qui prient, deuxièmement. Troisièmement, ce sont des hommes qui écoutent. Mission impossible pour un homme. Voilà quelque chose de difficile, n'est-ce pas? Je vous disais en introduction qu'il y a des aspects du ministère d'anciens qui sont difficiles pour les hommes, que les hommes ne font pas naturellement. Et voici la réalité. Tous les maux de la société touchent l'Église. Tous les maux de la société touchent l'Église. Nous vivons dans un monde déchu et l'Église existe dans un monde déchu. L'Église n'est pas immunisée contre les effets de la chute d'Adam et Ève, de la chute originelle. Les chrétiens sont des gens qui sont touchés par le péché, des gens qui existent dans la société et donc qui sont par défaut des gens dysfonctionnels. Et les anciens, en tant que responsables de l'Église, sont confrontés à cette réalité. Je l'ai dit déjà, un aspect de leur ministère est relationnel. Donc, par conséquent, à chaque fois qu'ils sont avec des gens, ils sont avec des gens qui, comme eux d'ailleurs, sont dysfonctionnels à la base. Les anciens ont le choix entre fermer les yeux et penser que l'Église, c'est le jardin d'Éden retrouvé. Ou bien, ils peuvent ouvrir les yeux et accepter le fait que l'Église ressemble plus souvent à un hôpital qui accueille des gens atteints de toutes sortes de maladies. L'Église n'est pas immunisée contre les problèmes d'ordre relationnel, comme le divorce, comme la violence conjugale, comme le traitement abusif des enfants, par exemple. L'Église n'est pas immunisée contre l'immoralité sexuelle, comme les relations sexuelles hors mariage, l'homosexualité, la pornographie, etc. L'Église n'est pas immunisée contre ces choses. Elle n'est pas immunisée contre les dépendances, comme l'alcoolisme, ou la boulimie, ou les drogues douces ou dures, etc. etc. Toutes ces choses ne sont que quelques exemples de symptômes de la chute du premier homme et de la première femme, Adam et Ève. Les chrétiens, évidemment, nous le savons, sont pardonnés pour leurs péchés, sont pardonnés en vertu de l'œuvre de Jésus. Mais ils viennent à l'Église en traînant de lourds bagages. C'est normal. Les anciens doivent être conscients de l'existence de ces bagages. Ils doivent être conscients et lucides concernant les luttes dont beaucoup de chrétiens font l'expérience, des luttes parfois secrètes, parfois très intimes et personnelles. Mais les anciens doivent avoir conscience de cette réalité. Et ils ne doivent pas abandonner le travail d'accompagnement que ces situations exigent. Ils ne doivent pas abandonner ce travail aux professionnels du monde séculier. Je ne dis pas que les anciens doivent remplacer les professionnels qui sont spécialisés dans tel ou tel domaine, hein, comme celui de la dépendance, par exemple, juste, ou même des relations conjugales. Il y a des conseillers conjugaux professionnels, n'est-ce pas? Il y a des psychologues professionnels. Je ne dis pas que les anciens doivent remplacer les professionnels. Mais les anciens ne doivent pas renoncer à leurs prérogatives en tant que responsables dans l'Église locale, et qui consistent, entre autres, à porter un éclairage biblique sur cette situation. Vous voyez, un thérapeute dans le monde séculier, à plus forte raison s'il n'est pas chrétien, mais parfois même quand ils sont chrétiens, ne vont pas forcément porter un éclairage biblique sur une situation donnée, sur une souffrance, sur la lutte que connaît une personne intérieurement. Alors les anciens sont parfois amenés à faire eux-mêmes un accompagnement à part entière, ce qui demande toujours une grande sagesse, beaucoup d'amour, beaucoup de patience, beaucoup de qualité chrétienne. Mais parfois, les anciens sont amenés à aiguiller les gens vers des professionnels. Quelqu'un qui a un vrai problème psychologique devant lequel les anciens sont, au bout d'un moment, démunis. Les anciens, par sagesse, vont aiguiller cette personne. Peut-être vers quelqu'un qui est mieux formé, plus spécialisé dans tel ou tel domaine. Mais que cela ne se fasse pas aux dépens des prérogatives de l'ancien qui est d'abord de faire porter un éclairage biblique sur la situation. Et bien sûr, parfois, les deux accompagnements se font en parallèle, hein, entre l'accompagnement des anciens et l'accompagnement des professionnels. D'ailleurs, ce que je dis ici, c'est pareil pour la maladie physique. Hein. Un malade qui demande la prière des anciens, ça ne veut pas dire qu'il peut laisser tomber son traitement, le traitement que son médecin généraliste a prescrit. Hein. Vous voyez bien le parallèle. Alors, j'insiste sur une chose ici, c'est que les anciens n'ont pas réponse à tout. c'est vrai qu'on peut parfois être confronté à certains mouvements dans des églises évangéliques où les anciens vont, comme je le disais tout à l'heure, abuser peut-être de leur position et prétendre pouvoir répondre à toute situation. On est peut-être là dans le domaine de la tyrannie dont parle l'apôtre Pierre. Les anciens, vous voyez, sont des généralistes de la Bible. Ce sont des généralistes de la Bible. Ils doivent être capables de faire briller la lumière de la parole de Dieu sur n'importe quelle situation. Ils doivent être capables de discerner les enjeux spirituels des difficultés auxquelles les gens font face. Ils doivent être capables de faire ça en vertu de leur fonction de généraliste de la Bible, un peu comme vous allez consulter votre médecin généraliste quand vous avez des maux de tête persistants. Et ensuite, le médecin généraliste va donner son avis et peut-être vous aiguiller vers un spécialiste qui, lui, va pratiquer un IRM, etc. Mais pour bien des cas, les anciens ne sont pas idéalement formés pour réaliser un accompagnement suffisant et complet. Donc, je l'ai dit, les anciens n'ont pas réponse à tout. Mais, je crois que les chrétiens aujourd'hui sont plus enclins à solliciter l'aide de professionnels du monde séculier ou de professionnels chrétiens qui ne sont pas des responsables de l'église locale, plutôt que de solliciter l'aide de leurs anciens qui sont pourtant là pour ça. Je crois qu'on est plutôt dans ce cas de figure-là que dans l'autre où les chrétiens sont enclins à négliger l'aide des professionnels. Je crois qu'on est plutôt dans le cas où ils négligent l'aide des anciens. J'en veux pour preuve que c'est vraiment relativement rare que des gens viennent me voir pour me dire « Je suis malade, est-ce que tu peux prier pour moi ?» Alors, il y a peut-être plein de raisons pour ça, hein, mais je suis sûr que les gens, dans notre église, je ne suis pas là pour faire des reproches, hein, mais en règle générale, ils ont plus vite fait de consulter leur médecin généraliste, et c'est bien de le faire, que de demander la prière pour leur maladie. Donc vous voyez, on est plutôt dans ce cas de figure que dans l'autre, où les chrétiens vont demander la prière et pas consulter leur généraliste. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je pense qu'il faut retrouver peut-être un équilibre et se souvenir que les anciens sont là pour ça. Alors bien sûr, dans le cas de notre église, on n'a pas à ce jour de conseil d'anciens, donc ça explique peut-être une partie du constat. Il n'y a pas si longtemps, j'ai d'ailleurs reçu un appel téléphonique d'une jeune femme anonyme qui voulait me demander conseil par rapport à une situation d'immoralité sexuelle dans laquelle elle s'était mise et dont elle ne voulait pas parler à son propre pasteur. Donc je ne sais pas, elle a dû feuilleter l'annuaire et dire « Tiens, je vais appeler un autre pasteur pour voir quel conseil il pourrait me donner. Que voulait-elle que je fasse ?» Bien sûr, je l'ai aiguillée vers son propre pasteur et vers les anciens de son église. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. Bien sûr que c'est très difficile d'ouvrir son cœur et de partager des situations qui touchent à notre intimité avec des gens qui nous sont proches, comme les anciens de l'église, des gens qu'on va voir toutes les semaines, dont peut-être qu'on est amis avec leurs enfants, etc. Parfois, les anciens sont des membres de notre propre famille, c'est très difficile. On a peur de leur regard, on a peur de leur réaction, de leur jugement. C'est pourquoi j'en reviens à ce que j'ai dit au début, et que j'aimerais peut-être marteler un peu ici, c'est que les anciens sont des hommes qui aiment. Ils doivent être des hommes qui aiment. Ils doivent être des hommes qui prient. Ils doivent être des hommes qui écoutent et qui sont lucides. Et ils cherchent le véritable intérêt des gens. Ils cherchent le véritable intérêt des gens. Ils ne sont pas là, en principe, pour abuser de leur autorité. Ils ne sont pas là pour condamner, mais pour aimer. Dieu vous donne des anciens dans votre véritable intérêt, en tant que chrétien, si vous participez à la vie d'une église locale. Alors, comme les anciens sont des hommes qui écoutent, eh bien, ils créent des occasions pour que les gens puissent se confier à eux. Et dans un petit moment, je reparlerai de la question de la confidentialité, qui touche à cette question de pouvoir se confier à l'ancien. Alors, on parle d'entretien pastoral, c'est un peu les termes habituels, d'entretien pastoral ou de visite pastorale, quand un ou plusieurs anciens a ou ont rendez-vous avec un membre de l'Église, voire avec plusieurs personnes s'il s'agit d'un couple ou d'une famille. les anciens doivent organiser ce genre de rencontre régulièrement avec toutes les personnes qui fréquentent l'Église. C'est l'occasion vraiment unique pour les gens dans l'Église de poser des questions, de solliciter les conseils de leurs responsables. C'est l'occasion de faire part de leurs critiques, voire de leur mécontentement. C'est l'occasion de demander la prière, etc., etc. Ce sont des occasions vraiment uniques et précieuses dans la vie de l'Église et dans la vie de chaque personne qui fréquente une Église. Alors déjà, il m'arrive de proposer de rendre visite à des gens dans notre Église, mais quand nous aurons un véritable conseil d'anciens, ces visites, je l'espère, seront plus régulières. Et ce ne sera pas forcément moi, ou juste moi, qui serai présent à ces rencontres. Lorsque vous avez rendez-vous avec un ancien, et cela je le précise parce que c'est important, il y a une idée reçue, je crois, dans l'inconscient des membres des églises. Lorsque vous avez rendez-vous avec un ancien, ne croyez pas que c'est parce que les anciens veulent vous faire des reproches. D'accord ? Si l'ancien vous appelle dans la semaine, dit « Est-ce qu'on pourrait passer te voir la semaine prochaine ?» Ne croyez pas que c'est pour vous faire des reproches. D'accord ? Beaucoup de gens se l'imaginent. Et du coup, ils sont sur leur garde, sur la défensive. Non, c'est pas du tout pour ça. Peut-être que ça peut être pour ça, mais c'est en principe pas pour ça. C'est pour créer cette occasion unique où les membres de l'Église peuvent parler librement avec leurs responsables. Les anciens, à la base, veulent passer du temps avec vous parce qu'ils vous aiment. D'accord ? Alors j'avance parce que le temps nous est compté. Hein. Les anciens sont des hommes qui aiment, ce sont des hommes qui prient, ce sont des hommes qui écoutent, et enfin, ce sont des hommes qui montrent l'exemple. Alors là, ça devient difficile pour moi qui vous parle, parce que j'ai conscience de toutes mes lacunes dans ce domaine. Cette dimension de leur fonction en tant qu'anciens apparaît clairement dans le passage emblématique où Paul parle des anciens dans 1 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 7. Pratiquement toutes les qualités que Paul mentionne dans ce passage, et j'ai eu l'occasion de prêcher sur ce passage, pratiquement toutes les qualités mentionnées sont des qualités chrétiennes qui concernent en fait tout le monde, tout chrétien. Certaines de ces qualités concernent particulièrement les hommes chrétiens. Les anciens, par exemple, doivent être sobres et sensés, dit Paul. Il n'y a pas que les anciens qui doivent être sobres et sensés, on est d'accord ? Tout chrétien doit être sobre et sensé. Mais Paul le dit particulièrement des anciens parce qu'ils doivent montrer l'exemple dans tous ces domaines. Les anciens, vous voyez, qui doivent être sobres et sensés, ne sont pas des clowns, si vous voulez. Hein ? Parfois, on a dans des églises des anciens qui sont des clowns, qui sont des enfants qui n'ont jamais grandi. D'accord ? Des foufous, on dirait peut-être aujourd'hui. Ils sont un peu foufous. En fait, quand Paul parle d'hommes sobres et sensés, il est en train de décrire la maturité de ces hommes. Des hommes mûrs, des hommes posés, qui font preuve de sang-froid et de courage en conduisant l'Église, d'accord ? Pas des gens qui prennent des décisions sur un coup de tête, d'accord ? Pas des hommes sanguins qui partent au quart de tour, ok ? Les anciens sont également des gens conciliants et pacifiques, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Conciliants et pacifiques. Ils aiment les gens. Ils recherchent la paix et non la querelle. Les anciens sont des diplomates. Ils savent faire la distinction entre les choses essentielles qui doivent être protégées et défendues à tout prix, et puis les choses secondaires. Ils œuvrent pour la paix dans l'Église, ce qui est extrêmement important, mes amis, parce que un des défis les plus importants pour les anciens, c'est de faire en sorte que des gens qui ne se ressemblent pas puissent vivre ensemble dans l'unité chrétienne. Oui, chérie ? Ah, c'est Jonah qui est là. Voilà un exemple de ce que je t'ai dit. Donc, les anciens sont diplomates. Ils font... C'est bon ? Ils œuvrent pour la paix dans l'Église. Et comme je le disais, pourquoi est-ce que c'est une qualité si importante pour un ancien ? Parce qu'un des défis les plus importants dans le cadre de l'exercice de la fonction d'ancien, c'est de faire en sorte que des gens qui ne se ressemblent pas puissent vivre ensemble dans le cadre de l'Église, dans la communion fraternelle, dans l'unité de l'esprit, dans la paix, une vraie paix. Les anciens, vous voyez, sont très souvent sollicités pour résoudre des conflits internes aux églises locales. Ça, c'est la réalité. Et voilà pourquoi Paul dit que les anciens doivent être conciliants et pacifiques. Okay? Les anciens sont également maris d'une seule femme. Voilà l'expression qu'on trouve dans ce passage de 1 Timothée 3 notamment. On retrouve aussi dans l'épître à Tite, où Paul aussi ajoute un petit paragraphe sur les anciens. Alors cette parole de Paul n'est pas seulement destinée à condamner la polygamie. Mari d'une seule femme, ok, facile à comprendre. On n'a pas le droit de se marier avec plusieurs femmes. Non, c'est pas seulement destiné à interdire la polygamie. Cette parole de Paul va plus loin que cela encore. On voit dans cette parole que les anciens de l'Église sont d'abord, ordinairement, ils sont mariés. On voit que pour Paul, un ancien, en principe, généralement, ordinairement, il va être marié. C'est pour ça qu'il dit mari d'une seule femme. Mais on voit aussi qu'ils ne doivent avoir Dieu que pour leur femme. Dieu, D'apostrophe, YEX, les anciens qui sont mariés ne doivent avoir Dieu que pour leur femme. L'expression exacte en grec est difficile à traduire, mais ça veut dire quelque chose du genre un homme qui est tout entier dévoué à une seule femme. C'est ça que ça veut dire en gros, le sens. D'accord ? C'est difficile à traduire. Sous-entendu, évidemment, un homme et une femme qui sont mariés entre eux. Hein. Un homme tout entier dévoué à une seule femme. Autrement dit, l'ancien doit être un modèle d'amour, de dévotion et de fidélité vis-à-vis de sa femme. Paul dit dans un autre passage que l'amour d'un mari pour sa femme doit ressembler à l'amour de Christ, Jésus-Christ, pour l'Église. C'est-à-dire un amour sacrificiel. Hein. Un amour sacrificiel et irréductible. Un amour qui ne change pas, qui ne diminue pas, qui ne disparaît pas. L'ancien doit donc s'interdire, et bien sûr ces conseils valent pour tous les maris, l'ancien doit s'interdire toute remarque désobligeante ou humiliante vis-à-vis de sa femme, il doit l'honorer à tout instant, surtout en public. Il doit faire plus que le nécessaire pour montrer à sa femme et à tout le monde qu'il lui est tout entier fidèle, en acte bien entendu, mais aussi en pensée. L'ancien, bien sûr ça s'applique aussi à tous les hommes mariés, mais l'ancien qui montre l'exemple doit faire plus que le nécessaire, d'accord, pour honorer sa femme, la valoriser devant tous, montrer qu'il lui est tout entier dévoué, tout entier fidèle en acte et en pensée. L'ancien, nous dit Paul, doit aussi bien diriger sa propre maison et bien élever ses enfants. Pareil, c'est dans ce texte, hein, Timothée 3, 1 à 7, je crois. Ce que ça ne veut pas dire, c'est que l'ancien doit avoir une famille parfaite. La petite maison à la prairie, impeccable, tout le monde en rang, poli, qui se tient bien à table, etc. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Si l'ancien a une famille parfaite, comment saura-t-on s'il la dirige bien ? C'est facile de diriger une famille parfaite. L'ancien sait diriger sa famille précisément parce qu'elle n'est pas parfaite. Précisément parce que la position par défaut de tout être humain, c'est d'être dysfonctionnel, c'est d'avoir des problèmes, c'est d'être pécheur. L'ancien sait diriger sa maison précisément parce qu'elle n'est pas parfaite et que lui non plus n'est pas parfait. Il doit savoir répondre aux défis que lui présente l'éducation de ses enfants et le mauvais caractère de sa femme. Il doit le faire en toute dignité et en tenant compte de son propre péché. D'accord ? Pourquoi doit-il savoir faire cela ? Eh bien parce que c'est la même situation dans l'Église, mais en pire, parce que les gens sont plus nombreux. D'accord ? Enfin, Paul dit, comme si ça ne suffisait pas, Paul dit dans le même passage que l'ancien doit être irréprochable. Eh oui, irréprochable, dur, hein. Alors je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas que l'idéal que Dieu nous présente dans sa parole nous pousse au découragement, mais plutôt nous encourage à nous repentir constamment de nos péchés, à chercher son secours dans la foi et l'humilité. Hein. Ce que Paul veut dire en utilisant ce terme d'irréprochable, c'est que l'ancien doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter toute situation ambiguë qui pourrait attirer sur lui le discrédit. Ça veut dire que les anciens, à cause de leur fonction, doivent renoncer à exercer certaines libertés. Alors cela est vrai aussi pour tout chrétien. Par souci de ne pas heurter, offenser un frère, les chrétiens sont appelés à renoncer à certaines choses qu'ils pourraient faire librement par ailleurs, en toute légitimité, parce qu'en tant que chrétiens, ils sont libres de faire ces choses, mais ils vont renoncer volontairement à certaines libertés parce qu'ils recherchent l'intérêt d'autrui dans l'Église. Les anciens, à plus forte raison, doivent renoncer à exercer certaines libertés par souci d'irréprochabilité, pour ne pas attirer sur eux le discrédit. Je vous donne quelques exemples. J'espère que ça va vous aider à comprendre. Est-ce un péché pour un ancien de faire une visite pastorale chez une femme célibataire de la faire tout seul, cette visite, sans qu'il y ait personne d'autre à la maison. Ben non, c'est pas un péché. C'est pas un péché. Pourtant, même si c'est pas un péché, c'est quelque chose à interdire absolument. En tout cas, évidemment dans la mesure du possible, mais je dis ça même en tremblant un peu, c'est à interdire absolument. Pour autant que c'est possible. Pour autant que cela est en notre pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est tendre le bâton pour se faire battre, n'est-ce pas? C'est ouvrir la porte à la médisance, à une réputation ternie, et en fin de compte à un ministère gâché, sans même parler du danger bien réel que ce genre de situation mène à une infidélité d'ordre moral, à une immoralité. Un autre exemple. Quel genre de série à la télé ou de film les anciens aiment-ils regarder? Si ce sont des choses douteuses, ne serait-ce que pour une scène ou deux, dans le film ou dans la série, ou ne serait-ce que pour le thème général qui est abordé, et que l'ancien fait savoir qu'il apprécie ces choses-là. Pas forcément l'aspect douteux, bien sûr, hein, mais qu'il apprécie en général ces choses-là. Encore une fois, il tend le bâton pour se faire battre, hein. L'ancien doit être irréprochable, dit Paul. Il doit aussi recevoir un bon témoignage, même de gens qui ne sont pas chrétiens. Il doit recevoir un bon témoignage, dit Paul, de ceux du dehors, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas dans l'Église, qui ne font même pas profession de foi chrétienne. Donc vous voyez à quel point Paul met la barre très très haut, combien c'est important pour lui de ne pas tomber dans le discrédit. Hein, c'est ce qu'il dit. Hein. L'ancien doit recevoir un bon témoignage, même de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. 1 Timothée 3, versets 2 et 7. Dur, dur, hein. Alors, pour terminer, quelques considérations pratiques, et ensuite on pourra avoir un temps de discussion, hein, et de questions. D'abord, la question pratique de la confidentialité. La confidentialité. Lorsque les anciens exercent leur ministère, hein, donc en tant qu'hommes qui aiment, qui prient, qui écoutent notamment, eh bien ils sont amenés à entendre, parce qu'ils écoutent, ils sont amenés à entendre les confidences des gens dans l'Église. Ces confidences se font-elles dans une confidentialité totale? Grande question. Ces confidences se font-elles dans une confidentialité totale? Alors on risque peut-être de vous surprendre, je ne sais pas quel est votre avis sur la question, mais la réponse toute simple à cette question un peu absolue est non. Non, les confidences ne se font pas dans une confidentialité totale. Et c'est non pour plusieurs raisons, je vais vous les donner. Et après, on pourra en discuter, hein, bien sûr, après. Hein. D'abord, et je sais que c'est un aspect un peu débattu, j'admets qu'on peut avoir une position différente là-dessus, hein, mais à mon avis, un ancien qui est marié, il est une seule chair avec sa femme. L'expression « une seule chair » décrit une unité vraiment... unique, vraiment particulière, une communion, d'accord? Une vraie communion. Une des implications de cette réalité biblique, c'est qu'aucun homme ne devrait en principe entretenir des secrets vis-à-vis de sa femme. Suzanne, vous voyez, en tant que pasteur, Suzanne, mon épouse, est mon plus fidèle soutien et mon aide la plus précieuse dans la vie, après le Seigneur. Et cela est vrai que je sois pasteur ou non, hein, même si je n'étais pas pasteur, ce serait le cas pour... Enfin, en principe, hein, en tout cas. Donc en principe, parce que Dieu me l'a donné comme une aide qui soit mon vis-à-vis, et pour que je forme une seule chair avec elle, donc en principe, il n'y a rien que je lui cache. Cela ne veut pas dire que je lui fais, à la fin de chaque journée, un compte-rendu de tout ce qui s'est passé dans ma journée, de tout ce que les gens m'ont dit. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais le principe de la transparence entre mari et femme, à mon avis, doit être préservé, parce que c'est un principe qui est pratiquement inhérent à la vision biblique du mariage et de ce concept d'une seule chair. Encore une fois, ça ne veut pas dire que moi, en tant que pasteur, je sois conduit à tout lui raconter, à lui rapporter tout ce qui se passe dans mes entretiens pastoraux. Mais elle sait qu'il n'y a rien que je vais lui cacher. Il n'y a pas de secret que je vais entretenir vis-à-vis d'elle. Et à mon avis, cela est un ingrédient important pour une relation maritale saine, pour une bonne relation entre mari et femme, que l'on soit ancien ou non. Maintenant, si je me confie en elle par rapport à une situation que j'ai apprise dans le cadre de l'exercice de ma fonction de pasteur aux anciens et qu'on prie ensemble ou que je lui demande son avis éventuellement sur une telle ou telle situation qui me travaille, qui me préoccupe, il est bien entendu que Suzanne ne va pas le répéter. Vous voyez ? Il est bien entendu que Suzanne ne va pas le répéter. Elle est une seule chair avec moi, mais pas avec les autres membres de l'Église, pas avec ses copines les plus proches, pas avec ses parents, pas même avec nos enfants. D'accord ? À ce niveau-là, il y a une confidentialité. Il y a une confidentialité. Même nos enfants, je l'ai dit, ne sont pas dans ce cercle de confidentialité. Ils ne sont pas une seule chair avec nous. Mais je vais revenir dans un petit moment au rôle des épouses des anciens. Une deuxième raison qui fait qu'il n'y a pas de confidentialité absolue dans le cadre des entretiens pastoraux, c'est qu'il y a parfois des situations qui imposent qu'on en parle à la police. C'est vrai. Des situations de violence, ou d'abus, ou d'autres situations de ce genre, hein, qui imposent qu'on en parle à la police. Une troisième raison qui fait qu'il n'y a pas de confidentialité absolue dans le cadre de l'entretien pastoral, c'est que les anciens travaillent en conseil. Les anciens travaillent de manière collégiale, n'est-ce pas ? Ils travaillent ensemble. Les anciens sont donc susceptibles de partager des informations avec les autres membres du conseil d'anciens de l'Église parce que l'autorité qu'ils ont s'exerce ensemble. En fait, tout leur ministère est un ministère collégial. Un ancien, lorsqu'il agit en tant qu'ancien, il représente les autres anciens qui siègent avec lui dans le conseil des anciens. Donc, voilà, sachez que dans vos entretiens avec les anciens de notre Église, à moins qu'il y ait des anciens ou des futurs anciens qui n'aient pas cet avis-là, sachez en tout cas qu'il n'y a pas de confidentialité absolue, mais il y a une confidentialité si l'on accepte la relation des anciens à leurs femmes, et exclusivement à leurs femmes, la relation des anciens entre eux, et la relation des anciens avec les autorités. D'accord ? Donc oui, confidentialité, mais non, pas absolue. Ok ? Maintenant, la question du rôle de l'épouse de l'ancien. Alors, j'ai eu l'occasion déjà de le lire dans plusieurs prédications, mais aussi de cette série d'exposés. Nous ne croyons pas que la Bible permette aux femmes d'exercer le rôle d'ancien ou de pasteur, pour des raisons que j'ai déjà exposées. Si ça vous intéresse, on peut en parler plus après. Hein. Mais pourtant, je suis favorable, moi, à ce qu'on invente un titre qui soit le suivant. Femme d'ancien. Ou femme de pasteur. Pas femme ancien, pas femme pasteur, mais femme d'ancien, ou femme de pasteur. Pourquoi ? Parce que ces femmes, ces épouses, sont dans une situation très particulière. Et, il faut le dire, très difficile. Le travail des anciens est un travail difficile. Et Dieu leur a donné leur épouse comme une aide qui soit leur vis-à-vis, pour les soutenir et les aider. Souvent, ces femmes vont voir leur mari découragé, épuisé. Elles vont voir leur mari attaqué, être attaqué par diverses personnes, même de l'intérieur de l'Église. Et elles ne pourront pas y changer grand-chose. C'est horrible de ne pas pouvoir intervenir. Car bien entendu, il leur est formellement interdit, dans l'Écriture, d'intervenir dans les situations que les anciens, eux, sont appelés à gérer. Vous voyez ? Situation difficile à assumer, à gérer. Elles vont faire face à une tentation très grande, par conséquent, celle de bavarder avec leurs plus proches confidentes. Celle de se confier à leurs plus proches confidentes, à leurs amis. Et là, je dis attention, la Bible dit attention, parce que la Bible condamne assez sévèrement la médisance, le fait de parler négativement d'un frère ou d'une sœur, le fait de colporter des rumeurs ou des informations que nous ne sommes pas, et qui ne sont pas, que nous ne sommes pas en droit de colporter ou de transmettre à d'autres. Même si ces informations sont avérées, exactement. Alors, mesdames, si vous êtes femmes d'anciens ou appelées à être femmes d'anciens un jour, soyez lucides sur la difficulté de cette position. Tenez votre langue en bride, comme dit l'apôtre, et encouragez plutôt votre mari d'une autre manière. Encouragez-le avant tout en priant pour lui. Encouragez-le aussi verbalement, en lui disant votre soutien, en lui disant vos encouragements, votre amour. Les femmes des anciens, bien sûr, encore un aspect pratique, les femmes des anciens peuvent aussi être amenées à accompagner leur mari dans le cadre d'entretiens pastoraux pour la simple et bonne raison que quand il s'agit d'un entretien avec une femme seule, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est clairement déconseillé, voire même à proscrire complètement le fait qu'un ancien se réunisse pour un entretien avec une femme seule. Donc, il peut être légitime que la femme de l'ancien accompagne son mari dans ce cas de figure, vous voyez ? Par souci de bienséance. Mais là encore, les femmes doivent faire attention à ne pas supplanter leur mari dans cette situation. Et c'est vrai qu'une femme va parler peut-être de façon plus facilement avec une autre femme. Parce que, je ne sais pas, il y a quelque chose dans l'esprit d'une femme qui fait qu'elle se comprenne mieux. C'est dans notre nature, nous, les hommes, d'avoir du mal à écouter et à comprendre. Mais quand même, les femmes d'anciens doivent faire attention à ne pas supplanter leur mari dans le cadre de ces rencontres, par exemple. Il est toujours tentant pour une femme de donner son avis, comme d'ailleurs pour n'importe qui, hein, mais attention à ce que les rôles distincts de l'ancien et de sa femme soient maintenus. On a un ancien et on a une femme d'ancien. On n'a pas une femme ancien, mais une femme d'ancien. D'accord ? Vous avez suivi ? On pourra peut-être développer un peu plus ce moment des questions. Alors, conclusion. Avant de finir, je veux donc attirer votre attention sur un fait tout simple, un constat, c'est que le rôle que je viens de vous décrire, le rôle de berger qui prend soin de son troupeau, ce rôle-là, à l'exception d'un berger qui prend soin de vraies brebis, dans le cadre des relations entre des hommes, ce rôle-là est inédit dans notre société, totalement inédit dans notre société. Et à bien des égards, la fonction d'ancien ne ressemble à rien d'autre ici-bas. Ça aussi, on a déjà eu l'occasion de le dire. Christ lui-même, Jésus-Christ, a montré l'exemple. L'exemple du bon berger, celui qui se préoccupe du bien-être de ses brebis au point de donner sa vie pour elles. Et comme Jonas, d'ailleurs, nous l'a rappelé dans sa dernière prédication, Jésus a aimé ses disciples à l'extrême. Il a aimé son peuple, il a aimé son troupeau, il a aimé ses brebis à l'extrême. Il s'est habillé comme un esclave, rappelez-vous, il a lavé les pieds de ses disciples qui pourtant, dans l'absolu, lui était totalement inférieur. C'est à cela que doivent ressembler les anciens. Ce sont eux aussi des bergers serviteurs du troupeau. Permettez-moi de conclure avec ces quelques versets tirés de la première épître de Pierre, une exhortation qu'il adresse aux anciens. Voici ce qu'il dit. « J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et participant à la gloire qui doit être révélée, deux points, faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur apparaîtra, c'est donc Christ, eh bien, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire.